Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 24 août 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. Clin d'œil iranien à l'échec des sanctions contre le Mali. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, Téhéran condamne l'attaque de l'armée américaine contre le peuple syrien. L'Iran accorde la priorité à la coopération avec le Mali dans tous les domaines, déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. Et puis l'Iran lance des exercices nationaux à grande échelle impliquant les quatre branches de l'armée. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Téhéran condamne l'attaque de l'armée américaine contre le peuple syrien. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a considéré ce matin l'agression de l'armée américaine contre le peuple et les infrastructures de la Syrie comme une violation de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de ce pays et l'a fermement condamné. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que l'attaque de l'armée américaine contre le peuple et les infrastructures syriennes ce mercredi matin 24 août est une violation de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de ce pays avant de la dénoncer fermement. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a qualifié cette nouvelle agression de l'armée américaine contre le peuple syrien d'acte terroriste contre des groupes populaires et des combattants anti-occupation et a nié toute prétendue affiliation de ces derniers à la République islamique d'Iran, comme l'a avancé les États-Unis dans ses allégations. Exhortant les États-Unis à mettre fin au pillage des biens et des ressources syriennes, il a ajouté: la présence continue des troupes américaines dans certaines parties de la Syrie est contraire aux lois internationales et viole la souveraineté nationale de ce pays et est considérée comme une occupation. Sur cette base, il est nécessaire qu'ils quittent immédiatement la Syrie et qu'ils cessent de piller le pétrole et les céréales syriens. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a également considéré la prétendue lutte américaine contre le terrorisme dans la région comme une simple excuse pour la poursuite de l'occupation et a précisé « Les États-Unis ont créé eux-mêmes, de l'aveu de leurs propres autorités Daesh, l'opinion publique régionale l'a bien gardé à l'esprit », a-t-il dit. L'une des priorités diplomatiques de l'Iran est de travailler avec le Mali dans les domaines de l'économie, de la défense et de l'éducation, a souligné le chef de la diplomatie iranienne. Le ministre iranien des Affaires étrangères, en visite au Mali, a tenu le mardi une conférence de presse conjointe avec le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Lors de la conférence, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que l'Iran attachait une importance particulière aux pays africains et que le président Raisi insiste toujours sur la priorité accordée à l'Afrique, en particulier au Mali. Amir Abdollahian a insisté sur l'accent mis par l'Iran sur l'élargissement des relations avec le Mali et a évoqué les efforts déployés 24 heures sur 24 par des groupes d'experts iraniens et maliens pour discuter de diverses questions afin de parvenir à un accord et ajouter « Aujourd'hui, nous sommes au Mali avec nos collègues ainsi que l'équipe économique de l'Iran et nous avons eu de fructueuses réunions avec les hommes d'État de ce pays. » Amir Abdollahian s'est dit satisfait de la visite du Mali, la première étape de sa tournée africaine, mais a déclaré que les deux pays entretenaient des relations financières à long terme et que Téhéran envisage sérieusement de développer des relations avec Bamako. Nous avons une feuille de route claire pour les relations entre les deux pays, ce qui rend notre responsabilité diplomatique plus difficile, a déclaré le ministre iranien en ajoutant Nos collègues à Téhéran et au Mali contribueront à améliorer ces relations dès que possible. Le ministre des Affaires étrangères a ensuite évoqué la bonne coopération des deux pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et a déclaré que le Mali avait souffert de ce problème et que l'Iran avait donné de nombreux martyrs dans la lutte contre le terrorisme et avait une grande expérience à cet égard. Amir Abdollahian a exprimé le soutien de l'Iran au gouvernement de Bamako pour parvenir à la paix et à l'indépendance. Le ministre iranien des Affaires étrangères vient de quitter cet après-midi hors de Téhéran l'aéroport de Bamako dans la capitale du Mali pour la Tanzanie. Le régime sioniste a un plan psychologique et terroriste pour détruire les activités nucléaires de l'Iran et ils ont répété ces plans ces derniers jours, a déclaré le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. En marge d'une réunion du Conseil des ministres, Mohammad Eslami a déclaré mercredi aux journalistes « La République islamique a mené toutes ses activités dans le domaine nucléaire conformément aux normes et réglementations de l'Agence internationale de l'énergie atomique et n'a pas oublié ce processus de mener des activités dans n'importe quel domaine sous la supervision de la IOA. La République islamique d'Iran est attachée au TMP et à l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Agence ne peut prétendre qu'elle a rencontré des manquements lors de ses inspections. Il n'y a pas de non-conformité et cela a toujours été confirmé, a ajouté le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Le vice-président iranien a souligné que les cas allégués et les accusations ont été portées et payées par le régime sioniste et qu'ils n'ont cessé de porter des accusations au cours de ces 20 années. Évoquant les menaces annoncées publiquement par les dirigeants sionistes contre le programme pacifique de la République islamique, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a ajouté « Le régime sioniste d'Israël a un plan psychologique et terroriste pour détruire les activités nucléaires de l'Iran et ils ont répété ces choses ces derniers jours. » Un an du gouvernement Raïsi, les parlementaires iraniens expriment leurs remerciements. Dans un communiqué, les députés de l'Assemblée islamique ont apprécié les efforts jugés inlassables du président Ibrahim Raïsi, fortement engagé au développement du pays, et ses efforts dans divers domaines pour résoudre les problèmes de la nation. Selon l'IRNA, lors de la réunion publique du Conseil islamique mercredi, la déclaration de 281 députés représentants du peuple iranien a été lue à l'occasion de la célébration de la semaine du gouvernement, manière de rendre hommage aux actions du 13e gouvernement dirigé par Ibrahim Raïsi. Il est indiqué dans ce communiqué « Nous estimons nécessaire d'exprimer notre gratitude pour un an d'efforts inlassables du président du peuple et de la révolution, M. Dr Seyed Ibrahim Raïsi, dans divers domaines, pour surmonter les problèmes, en particulier ses visites sur 31 provinces du pays, qui est un prélude pour un nouveau dynamisme et une source d'espoir pour le peuple. » Et un scientifique iranien rend la vue à des aveugles par une cornée bio-artificielle. une équipe de scientifiques iraniens dirigée par Mehdod Rafat dans le cadre d'une série d'opérations médicales en Suède ont pu restaurer la vision de 20 patients atteints d'une dégénérescence de l'œil. Des implants fabriqués à partir de cellules de cochon ont restauré la vision de 20 patients atteints d'une dégénérescence de l'œil. Trois d'entre eux, aveugles au départ, ont retrouvé une vue de 20 sur 20. À la tête de cette opération presque miraculeuse était Mehdod Rafat, un médecin iranien résident en Suède. Dans le monde, 12,7 millions de personnes seraient aveugles à cause d'atteintes à la cornée et désormais ils peuvent revoir l'univers grâce à cette découverte réalisée par les scientifiques iraniens. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Clin d'œil iranien à l'échec des sanctions contre le Mali. Le ministre iranien des Affaires étrangères, qui s'est rendu en République du Mali à la tête d'une délégation politique et économique de haut niveau, a assisté mardi matin à la première réunion de la commission mixte de coopération entre l'Iran et le Mali, au cours de laquelle diverses questions ont été examinées par les deux parties. Exprimant sa satisfaction quant à la tenue de la première réunion officielle de la commission mixte des deux pays à Bamako, dont les préparatifs étaient à l'ordre du jour des deux pays depuis 6 mois, Hossein Amir Abdollahian indiquait que la tenue régulière et continue des réunions de la commission mixte et l'augmentation des échanges de délégations techniques, économiques et politiques entre les deux pays conduirait au développement tous azimuts et à l'approfondissement de la coopération bilatérale. Il convient de noter que lors de la précédente visite du ministre malien des Affaires étrangères à Téhéran, les deux parties ont discuté de la formation d'une commission mixte pour approfondir la coopération bilatérale dans les domaines de la science, de la technologie, de l'industrie, du commerce, du tourisme, de la santé et de divers sujets d'intérêt commun. Évoquant la présence active des institutions iraniennes au Mali, dont le centre médical de la Société du Croissant Rouge iranienne, le chef de la diplomatie iranienne a écrit la formation de la commission mixte comme un mécanisme approprié pour accroître le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays, avant de souligner la grande volonté de l'Iran de poursuivre et de développer des relations et une coopération tous azimuts avec le Mali. Le ministre des Affaires étrangères a souligné l'importance des voyages mutuels des responsables des deux pays pour l'expansion des relations bilatérales et a mis l'accent sur le statut de l'Afrique dans la politique étrangère du gouvernement iranien. Amir Abdollahian a évoqué la position privilégiée de l'Iran, qui fait partie des 10 premiers pays au monde dans les domaines de la technologie, de l'industrie, de la défense, de la santé, de la médecine et ainsi de suite, et a ajouté que l'Iran était prêt à partager ses expériences dans les domaines subventionnés avec le Mali. Ailleurs dans ses remarques, Amir Abdollahian a exprimé l'intérêt particulier de l'Iran pour le transfert de la science et des technologies iraniennes vers le continent africain, comme en témoigne l'établissement de la première succursale du centre technologique iranien au Kenya et a fait état de la volonté de l'Iran d'établir sa deuxième succursale à Bamako. Abdoulaye Diop, pour sa part, a exprimé l'espoir d'organiser une exposition technologique avec la participation d'entreprises iraniennes basées sur le savoir. Affirmant que le président iranien a un engagement envers l'Afrique, Le ministre malien des Affaires étrangères a déclaré « De nombreux pays s'intéressent à l'Afrique pour leurs propres intérêts, mais le choix de l'Iran est différent. Le choix de l'Iran n'est pas à des fins politiques ou ceux de suprématie, et il cherche les intérêts des Africains. » Il a également appelé à l'expansion de la coopération Iran-Mali dans différents domaines, notamment l'agriculture, l'industrie, l'énergie et le pétrole, avant de remercier l'Iran d'avoir fait don au Mali de vaccins Covid-19 de fabrication iranienne. À la tête d'une délégation politique et économique de haut rang, le haut diplomate iranien est arrivé mardi matin à Bamako, capitale malienne. À son arrivée, Hossein Amir Abdollahian a été accueilli par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Vous regardez l'émission Le Débat, donc. Alors, Emmanuel Macron, le président français, a parlé aux Français en disant qu'il fallait qu'ils acceptaient de payer le prix de la liberté. Certainement, il faisait allusion aux possibles conséquences de la crise entre la Russie et l'Ukraine. De quelles conséquences on parle? Peut-être la pénurie du gaz naturel ou bien l'augmentation donc du prix du carburant ou tout simplement l'absence de chauffage pendant l'hiver pour les Français. En effet, la guerre a sonné aux portes des Français car un député français a même dit qu'il fallait qu'il consulte le Parlement avant de parler de la liberté des Français et surtout de cette liberté. D'autres députés qui disent que, bien sûr, les Français doivent payer pour le prix de la mauvaise politique d'Emmanuel Macron et de ses prédécesseurs. Voilà. À présent, je vous invite de regarder un reportage avant d'inviter les experts des questions politiques. À tout à l'heure.
Emmanuel Macron a demandé le 19 août aux Français d'accepter de payer le prix de leur liberté en référence aux possibles conséquences pour la France du conflit russo-ukrainien, notamment sur le volet énergétique. À l'occasion du 78e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas dans le Var, Emmanuel Macron a appelé les Français à regarder en face le temps qui vient. En référence aux possibles conséquences pour la France du conflit russo-ukrainien, notamment sur le volet énergétique. « Je pense à notre peuple auquel il faudra de la force d'âme pour accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs », a-t-il notamment déclaré, encourageant ainsi les Français à accepter une situation en partie liée aux mesures occidentales antirusses adoptées ces derniers mois par Paris. Dans les faits, les propos d'Emmanuel Macron font écho au risque d'une pénurie de gaz naturel qui plane en Europe, en raison notamment de certaines annonces russes concernant des suspensions d'approvisionnement. Ainsi que le rapporte l'AFP, le géant pétrolier Gazprom a en effet annoncé le 19 août une interruption de ses livraisons à l'Europe durant 3 jours pour des raisons de maintenance. Pour rappel, l'entreprise russe avait déjà alerté début août sur le fait que les sanctions occidentales perturberaient le bon fonctionnement du gazoduc Nord Stream 1, alors que c'est à travers celui-ci qu'est actuellement acheminé le gaz russe en Europe, tandis que Nord Stream 2 a vu son autorisation de fonctionnement suspendue avant le lancement de l'opération militaire russe en Ukraine. En tout état de cause, l'appel du président français a fait réagir plusieurs personnalités politiques. Il a par exemple rapidement été salué au sein du parti présidentiel, à l'instar de l'eurodéputée Nathalie Loiseau, qui a félicité Emmanuel Macron pour parler aux Français le langage de la vérité et solides valeurs. Une déclaration courageuse pour sa part, commentait le député MoDem Frédéric Petit. Mais simultanément, les propos du locataire de l'Élysée ont provoqué de vives critiques visant la politique française sur le dossier ukrainien. Macron évoque la guerre qui tonne à nos portes et nous appelle à accepter de payer le prix de la liberté. De quel droit ce petit chef avide de guerre décide-t-il sans consulter le Parlement de nous entraîner dans ce conflit ? A par exemple fustigé l'eurodéputé Gilbert Collard, président d'honneur de Reconquête. Étape de plus dans l'escalade très personnelle mais dangereuse pour tous les Français d'un président va-t-en-guerre incontrôlé. Et dire que le Parlement, avec son pouvoir de contrôle, a exceptionnellement été autorisé à ne reprendre ses travaux qu'en octobre, a réagi sur Twitter l'ancien maire de Rambouillet, le démocrate chrétien Jean-Frédéric Poisson.
Eh bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Xavier Dupré, économiste depuis Bruxelles, qui a accepté notre invitation. Bonjour M. Dupré.
Bonjour, merci à vous et salutations à tous vos auditeurs.
Tout le plaisir est pour nous. Un grand bonjour à M. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam depuis Suède. M. Ahmad Rami, bonjour. Voilà un débat qui est prometteur. Ma première question va s'adresser à M. Dupré depuis Bruxelles. Alors, vous avez certainement entendu ce reportage. Nous parlons bien sûr des possibles conséquences de la crise entre la Russie et l'Ukraine et la crainte du président français à cet égard. Et le président français demande aux Français de faire des sacrifices déjà avant que les conséquences donc, de cette guerre arrivent à la porte des Français. Que pensez-vous ?
Ben, il est très clair aujourd'hui que le marché européen du gaz, parce que c'est ça dont il est question, hein, je veux dire, lorsque on s'adresse aux Français, il leur parle de leur facture énergétique. Il a tenté de mobiliser son électorat et par-delà la population française en parlant du prix des valeurs. C'est fort contestable, évidemment, parce que malgré tout, il reste dans nos démocraties, bon, qui sont toutes plus ou moins social-démocrates en Europe occidentale, une valeur politique fondamentale, c'est le droit de la population à disposer d'un certain bien-être économique, quand bien même des spéculateurs tireraient profit d'une situation de pénurie. Donc ça, c'est... Non, mais c'est vrai, il n'y a pas que les valeurs de liberté qui constituent le socle des sociétés d'Europe occidentale, mais aussi des valeurs d'égalitarisme économique et social. Par-delà, c'est très très clair. Aujourd'hui, on demande à toute une série de pays européens de continuer à fournir l'Allemagne parce que c'est là que se trouve le nœud gordien de la politique énergétique européenne. La dépendance, si vous voulez, de l'Union européenne prise pays par pays à l'égard de la Russie est fort variable. Par exemple, un pays comme la Belgique, les fournitures, l'approvisionnement en provenance de Russie, c'est 6% du total énergétique. Donc, vous voyez, une coupure est évidemment, serait évidemment un problème, mais ce ne serait pas un problème majeur. Pour l'Allemagne, c'est tout à fait différent. Là, on est sur vraisemblablement. La majorité du gaz consommé en Allemagne, que ce soit par les particuliers ou les industries, provient de Russie. Dans ces conditions, il existe un plan européen qui consiste quand même assez nettement à faire en sorte que les pays les moins dépendants de la Russie fournissent du gaz à l'industrie allemande, qui est le cœur économique, le poumon de l'Union européenne. Dans ces conditions, il est très très clair que la situation de pénurie qui est celle de l'Allemagne aujourd'hui, qui est tout à fait prévisible et constatable, va s'étendre, se répartir sur toute l'Europe occidentale. Dans ces conditions, il faut craindre évidemment des ruptures de fourniture de gaz, mais aussi, puisqu'une partie de l'électricité est produite par des centrales au gaz, eh bien, des ruptures dans l'approvisionnement de l'électricité. C'est à cela que nous prépare Emmanuel Macron. Il prépare sa population à cela. Je pense que c'est aussi une manière, quelque part, de ne pas pointer du doigt le rôle de toute une série de spéculateurs privés. Et quand on voit les chiffres de bénéfices de toute une série de compagnies énergétiques, on s'aperçoit que finalement, cette montée des prix a été une bonne affaire pour que très gros acteurs multinationaux. Et donc là, je pense qu'il y aura matière à contestation. Si vous voulez, il y aura pénurie, ça me semble, aujourd'hui, le rythme de remplissage des réserves de gaz en Allemagne, qui sont au plus bas pour cette période-ci de l'année. C'est-à-dire que les réserves de gaz devaient quasiment, nous sommes quasiment au mois de septembre, au mois de septembre, en Allemagne, les réserves de gaz étaient comblées à raison d'environ 70-75%. Aujourd'hui, on est très en dessous de cela. Donc, il y a bien une pénurie. En revanche, lorsqu'Emmanuel Macron devra annoncer aux Français que les pénuries sont là en plein hiver, qu'il y aura des difficultés dans certains foyers, peut-être même des hôpitaux, qu'il faudra rationner le gaz, eh bien, à ce moment-là, il y aura une opposition qui pourra lui dire, et c'est ça qui sera intéressant, qu'il aurait pu réguler davantage les prix.
Oui.
Et de ce fait, garantir une meilleure planification de la fourniture pour les ménages. Donc je pense que la contestation sociale sera forte lorsque les gens constateront dans leur quotidien cette absence d'énergie.
Tout à fait.
Ça me semble tout à fait évident. On est parti pour ce type de scénario. Il y a un scénario quelque part de gilet jaune qui ne sera plus limité aux seules classes populaires, mais qui va toucher des classes moyennes importantes. Toute l'Europe occidentale connaîtra
des
tensions relatives à cette problématique.
Tout à fait. J'aimerais beaucoup connaître l'opinion de M. Ahmad Rami, qui est avec nous depuis Suède. M. Ahmad Rami, M. Xavier Dupré parle de fortes manifestations qui attendent donc le gouvernement français à cet égard. Le discours d'Emmanuel Macron a donné évidemment beaucoup de frissons aux Français. Certainement, il a parlé des conséquences, mais peut-être c'est des conséquences très graves, comme donc la déstabilisation du pays. Que pensez-vous ?
Pour moi, en tant que musulman et arabe, et fait partie aussi suédois, je pense que normalement, les mêmes règles de jeu internationalement doivent gérer la situation. C'est-à-dire toujours de penser à ce qui est juste, à ce qui est, valable pour tout le monde. Et pour moi, le seul critère maintenant qui peut divulguer la sincérité ou l'insincérité de discours politique, c'est la question palestinienne. Que pense en réalité Emmanuel Macron de la question palestinienne? Et que pense la Russie, Poutine, de la question palestinienne? Les deux reconnaissent l'occupation sioniste de la Palestine et sa légitimité. Donc, il y a dans le fond, dans les grands problèmes, parce que c'est le plus grand problème mondial qui va décider de la paix juste ou de la guerre injuste dans le monde. Et dans ce domaine-là, dans la question palestinienne, parce que j'ai l'habitude de dire, même si Jésus retourne aujourd'hui, la seule question que pour voir si c'est un ami ou un ennemi à lui poser, c'est quelle est son opinion de la, est-ce qu'il reconnaît Israël ou non. Et la même chose maintenant, toutes ces discussions, c'est du bavardage, c'est seulement des mots. Parce que, comme j'ai dit, c'est un conflit maintenant qui est devenu entre la Russie et l'Occident, et la Russie et l'Occident, tous sont en réalité gérés par le lobby sioniste, que ce soit les États-Unis, haut la Russie. Et puisqu'ils reconnaissent l'entité sioniste, l'occupation de la Palestine, c'est ce que maintenant la Russie fait aujourd'hui en Europe, c'est ce que Israël fait en Palestine. L'occupation injuste, c'est-à-dire c'est les frontières d'Israël, c'est là où ses chars, son armée peut arriver. Et aujourd'hui, Poutine dit aussi que c'est les frontières de la Russie, c'est là où c'est ce qu'il peut occuper, comme l'Israël. Tout ce que l'Israël peut occuper, même le Golan, c'est reconnu. Et tout le monde reconnaît Israël, qui occupe la Palestine, qui occupe le Golan, qui occupe une partie du Liban. Et maintenant, donc c'est de... Macron exerce en réalité la même chose en Afrique. Les mercenaires de Wagner soutiennent des régimes seulement pour contre l'argent, et Macron va aussi soutenir des régimes seulement pour des intérêts financiers. Donc il ne pense pas aux règles, ni à la justice, ni à la paix en dehors, quand il parle par exemple de la Palestine ou de l'Afrique. Ce sont seulement les intérêts financiers égoïstes qui gèrent. Donc, à mon avis, tout ça, c'est disons, de l'hypocrisie. C'est le discours de Macron. C'est pour continuer à tromper l'opinion mondiale, à tromper l'opinion française, parce que dès que vous lui posez à Macron ou à Poutine la question, est-ce qu'ils reconnaissent l'occupation sioniste en Palestine ou non, eh bien, ils reconnaissent tous la question, l'occupation sioniste de la Palestine. Le reste, c'est du bavardinage, c'est de l'hypocrisie. Ils ont transformé l'hypocrisie à une nouvelle relation idéologique, relation politique idéologique.
Oui,
voilà.
Oui, tout à fait. Sachez, M. Xavier Dupré, que M. Ahmad Rami a consacré toute sa vie à la cause palestinienne et défendre la cause palestinienne. Donc c'est pour ça qu'il donne un rapport direct entre la crise entre la Russie et l'Ukraine et bien sûr le lobby sioniste et la question palestinienne. Pour vous, vous avez parlé beaucoup de chiffres tout à l'heure, mais j'aimerais qu'à présent, vous nous parliez du fait que beaucoup d'experts politiques pensent que Emmanuel Macron fait exactement ce qu'on lui dicte de la part des États-Unis et du lobby sioniste à l'égard, par exemple, de la crise entre la Russie et l'Ukraine et peut-être dans l'avenir, cette pénurie du gaz que vous avez évoquée. Que pensez-vous?
Pour l'heure, il est très très clair que les États-Unis, qui ont beaucoup appuyé le gouvernement ukrainien dans ses revendications et ont beaucoup participé à l'alimentation des tensions entre l'Ukraine et la Russie, eh bien aujourd'hui, on constate que les gouvernements d'Europe occidentale sont, passez-moi l'expression, au garde-à-vous devant l'OTAN, le parapluie militaire de l'OTAN, sont très très alignés, que ce soit sur la question palestinienne ou d'autres questions internationales. On voit bien par exemple que sur l'embargo injuste qui frappe Cuba, eh bien aujourd'hui les Européens qui autrefois avaient plutôt tendance à s'opposer aux États-Unis sur ce dossier, mais à ma foi aujourd'hui ils se font très discrets. Oui, c'est très clair. Aujourd'hui, il y a nettement un alignement des différents gouvernements d'Europe occidentale sur l'establishment, les positions de l'establishment états-unien. En témoigne notamment l'adhésion il y a peu de temps de la Norvège et de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Et on peut également aujourd'hui remarquer que le discours d'Emmanuel Macron n'est pas un discours qui vise à dire trouvons une solution la plus harmonieuse possible de retour, notamment aux accords de Minsk, qui aurait permis éventuellement une coexistence plus ou moins harmonieuse, en tout cas organisée, entre la minorité russophone de l'Ukraine orientale et la population d'Ukraine occidentale. On n'est pas là-dessus. Il dit à la population française, à son peuple, nous allons aller jusqu'au bout d'une dynamique de confrontation et pour cela nous devons nous attendre à des rétorsions de la part de la Russie et nous allons devoir nous priver de gaz. Le discours qu'il a prononcé là est un discours de chef de guerre. Et il est entraîné dans cette guerre parce que de plus en plus, on le constate aujourd'hui, les États-Unis sont devenus la puissance dominante.
Monsieur Xavier Dupré, donc vous dites donc directement que la guerre a sonné à la porte donc de la France ?
Non, je n'ai pas dit qu'elle avait sonné à la porte de la France. On est sur une guerre régionale et contenue. Ce qui est en revanche très clair, c'est que les conséquences d'une économie de guerre, qui est toujours une économie de privation et de pénurie, ça, Emmanuel Macron est prêt à l'accepter et à l'imposer à sa population. Ça, c'est déjà un discours de guerre, quelque part, puisqu'il dit à une population d'Europe occidentale, vous allez devoir, ici, maintenant, vous priver d'énergie. Or, l'énergie, c'est la vie. Il y a des gens qui mourront peut-être de froid cet hiver en France. Dans leur appartement.
Monsieur Dupré,
ils n'ont plus les moyens de payer
tout
les
à fait.
De gaz.
Xavier Dupré, est-ce que les Français, quant à eux, est-ce qu'ils sont prêts donc, de se soumettre aux conséquences de la guerre en Ukraine ?
Ce sera tout l'enjeu d'une conflictualité politique. Je n'ai pas de capacité à prédire l'avenir de cette façon-là. Ce que je peux dire en tout état de cause, c'est que vu la montée des inégalités en France, spécialement depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est beaucoup accéléré avec lui. Il y a eu la crise Covid. Il y a maintenant cette crise de l'énergie. Eh bien, la conflictualité sociale et sociopolitique autour des thèmes de la redistribution, autour des thèmes de l'aide de l'État à sa population, tout cela va revenir sur le tapis. Donc il y aura forcément, à un moment donné, une montée de la conflictualité. Ce que je dis aussi, c'est que les populations d'Europe occidentale sont devenues beaucoup plus analphabètes politiquement qu'elles ne l'étaient il y a 50 ans. Ça, c'est très clair. Et donc les gens sont finalement très attentifs, très court-termistes. Pour l'instant, les vacances se terminent. Ils ont entendu ce discours. Ils sont encore dans la torpeur de l'été et de la canicule. Donc les réactions ne seront pas immédiates. La population va en parler. Mais lorsque les premières mesures de privation et de pénurie, et le constat de pénurie se fera, c'est pas l'hiver, parce que là, pour le moment, personne n'a besoin de chauffage, c'est l'été. Là, à ce moment-là, ça commencera à neiger. Ça me semble évident.
Monsieur Dupré, nous avons une forte impression que les Français ne sont pas prêts à vivre avec une pénurie. Depuis des décennies, donc, ils vivent tranquillement. Bien sûr, la qualité de la vie était bonne pour les Français, mais maintenant, d'un coup, est-ce qu'ils sont prêts d'accepter une pénurie de gaz naturel ? Ou pire encore ?
Je crois en tout état de cause qu'il y a une contradiction entre le discours d'Emmanuel Macron, qui est un discours de guerre, enfin, quelque part de justification de ces pénuries, avec, si vous voulez, l'état d'esprit d'une opinion publique qui a vécu dans une société d'abondance. Et globalement, si on compare à beaucoup de pays de la planète, oui, l'Europe occidentale reste une terre d'abondance. Donc dans ces conditions, il y aura des contradictions et Emmanuel Macron va tenter de plus en plus de discréditer ses adversaires en les taxant, et je pense notamment à tout le discours de stigmatisation de la France insoumise, on va être stigmatisé, le camp politique qui sera le camp de la protestation sociale, c'est quand même le parti le plus proche des syndicats. Et donc, quelque part, les syndicats vont demander des augmentations salariales. Ils voudront que leur base sociale soit mieux traitée que cela. Et donc, ça se sentira à l'Assemblée. On verra de plus en plus Emmanuel Macron avoir recours à trois registres discursifs. Un, il va parler des valeurs de la France, taxera ses adversaires de totalitaires, autoritaires, alors que ce n'est pas vraiment le cas, vous savez. La France insoumise, finalement, si je regarde le programme de la France insoumise aujourd'hui, je le compare à celui de François Mitterrand en 1981, c'est finalement moins à gauche qu'à l'époque. Il tentera cela et il va aussi tenter la carte de l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire qu'on va décrire tous les opposants à cette ligne politique d'appui relativement inconditionnelle aux États-Unis. On va être très vite taxé lorsqu'on critiquera Israël, lorsqu'il y aura des positions sur le port du voile dans l'administration publique ou dans les écoles, on va être taxé d'islamo-gauchiste, donc d'antisémite, donc oui. de nazi.
Tout à fait.
On sent bien cette chaîne-là. Elle est déjà bien déchaînée depuis le mois de juin. Hein, lorsque la rentrée parlementaire se terminait, on sentait déjà bien que les accusations face au camp social de l'opposition à l'austérité et à la pénurie, eh bien, en fait, comportaient une part très forte de stigmatisation autour du thème de l'islam et de la tolérance à l'islam, voulais-je dire, et également de l'antisémitisme. Là, il y a une politique de stigmatisation. Je crois que c'est un jeu très dangereux auquel pourrait jouer le pouvoir en faisant cela, parce que cela pourrait mobiliser des pans entiers des banlieues des grandes villes en France, cette partie-là du tissu urbain, contre le pouvoir.
Absolument. Monsieur Ahmad Rami, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Oui, moi je pense que, puisque maintenant ce qu'on voit, c'est qu'on prépare l'opinion publique à une troisième guerre mondiale, hein. Et on sait que dans la Deuxième Guerre mondiale, tous les peuples, tous les pays ont perdu. Personne n'a gagné dans cette guerre, sauf Israël. Israël a été créé après cette guerre, au résultat de cette guerre. Donc la Troisième Guerre mondiale, comme on voit maintenant, on dit que les Juifs de Russie et d'Ukraine, en majorité maintenant, sont en train d'émigrer en Israël, c'est-à-dire le devoir juif de l'Aliyah, le retour. Et donc, on va seulement renforcer, parce que le président ukrainien est très ami avec Israël et les juifs sionistes. Et la majorité de son gouvernement, ce sont des sionistes pro-israéliens. Et aussi, le Macron et l'Occident, ils sont dominés aussi par le pouvoir sioniste.
Oui.
Donc, en réalité, c'est le même pouvoir, c'est une guerre en réalité orchestré par le pouvoir sioniste et par Israël.
Oui. Monsieur Ahmad Rami, directeur de Radio Islam depuis Suède, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à Monsieur Xavier Dupré, économiste, qui nous a accompagnés depuis Bruxelles. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Pourquoi l'Union européenne pourrait disparaître d'ici un an? L'Allemagne s'est montée très puissante au sein de l'Union européenne et qui a imposé l'austérité aux économies européennes les plus faibles comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Berlin demande maintenant que les autres pays membres de l'Union européenne renflouent les éléments de ce qui sera bientôt inévitablement une urgence énergétique résultant du fait que l'Allemagne s'est conformée à la demande des États-Unis de non seulement se joindre aux sanctions américaines contre la Russie, mais aussi de mettre fin au gazoduc russe Nord Stream 2, qui était censé augmenter au lieu de diminuer, comme ce sera le cas maintenant, l'approvisionnement de l'Europe en gaz naturel russe. L'Allemagne était jusqu'à récemment le moteur industriel de l'Union européenne et c'est donc elle qui a le plus à perdre d'une réduction et d'un renchérissement considérable de ses approvisionnements en énergie. Au fur et à mesure que ses approvisionnements en énergie seront réduits, les prix de l'énergie augmenteront, puis monteront en flèche et l'économie allemande sera écrasée. Les dirigeants allemands, comme ceux des autres pays de l'Union européenne, se sont pliés aux exigences des sanctions américaines contre la Russie, qui sont fondées sur des informations truquées. En conséquence, le peuple allemand sera bientôt gelé, alors même que l'Allemagne dépensera pour l'énergie à des prix astronomiquement plus élevés que ceux qu'elle payait auparavant. la chute des approvisionnements en énergie en provenance de Russie sera remplacée par une augmentation des approvisionnements en provenance d'autres pays, y compris l'Amérique, dont l'énergie est beaucoup plus coûteuse que celle de la Russie. Et seule une petite fraction de ces approvisionnements réduits en provenance de Russie pourra être remplacée. Quelque chose devra céder, probablement l'Union européenne elle-même, car l'escalade rapide des hostilités internes entre les nations de l'Union qui en résultera, en particulier entre l'Allemagne et les nations dont elle attend maintenant qu'elle la sorte de cette crise, pourrait faire éclater l'Union européenne elle-même de manière irrévocable. Cela se produira au moment même où l'Union européenne, qui s'était fortement engagée à réduire, voire à éliminer les combustibles nucléaires et fossiles, en particulier le carbone, s'empresse soudainement d'accroître considérablement son utilisation de ces sources de combustibles non écologiques. Les électeurs européens n'apprécieront pas de voir leurs dirigeants faire un virage à 180 degrés, celui du réchauffement climatique. De nouvelles questions non anticipées seront inévitablement soulevées. En outre, la transition vers le retour aux combustibles fossiles ne peut même pas se faire aussi rapidement que les dirigeants européens le promettent. Et par conséquent, non seulement les Européens auront froid au cours de l'hiver prochain, mais aussi leurs dirigeants devront s'expliquer sans admettre qu'ils ont eu tort, terriblement tort, et qu'ils n'étaient pas préparés. Et ce fait indéniable provoquera un chaos politique. Car les récriminations mutuelles sur leurs multiples échecs susciteront chez les Européens la remise en question de l'ensemble du projet de l'Union, ce projet de création d'une seule unique Union européenne incompréhensiblement bureaucratique satellite des États-Unis. La nostalgie du passé, des belles nations européennes indépendantes et l'amertume de l'avenir, du nord contre le sud en Europe, prendront le dessus, affaiblissant le tissu de l'Union européenne et remettant en question toute l'alliance transatlantique de l'après-Seconde Guerre mondiale, asservie en fait au gouvernement américain qui déteste la Russie, à la fois l'OTAN des États-Unis et sa jumelle politique. L'Union européenne dominée par les États-Unis et ses milliers de serviteurs américains à Bruxelles. L'évaluation complète, la plus récente des besoins énergétiques des nations de l'Union européenne est le rapport de septembre 2008, intitulé « La dépendance de l'Europe à l'égard du gaz naturel russe, perspectives et recommandations pour une stratégie à long terme » de Richard J. Anderson du Centre européen d'études de sécurité George C. Marshall, financé par les gouvernements américains et allemands. Il a clairement indiqué que le combustible le moins cher et dont la croissance est la plus rapide en Europe, à moins que les pays de l'Union européenne ne mettent en place des politiques pour changer cela, ce qui n'est pas produit, était le gaz naturel russe acheminé par gazoduc et que c'était particulièrement vrai pour la production d'électricité, les utilisations industrielles et les matières premières chimiques pour les plastiques, etc. C'est ce qui s'est passé, la domination russe sur les approvisionnements énergétiques et industriels de l'Europe. Et en 2008, les pays les plus dépendants du gaz naturel russe, bon marché, étaient l'Allemagne, la Pologne, la Slovénie, la Hongrie, la Turquie, l'Autriche, la République tchèque, la Grèce, la Finlande, la Slovaquie, la Bulgarie, le Biélorusse, la Moldavie, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. On peut supposer qu'il s'agit des nations qui seront particulièrement frileuses l'hiver prochain afin de poursuivre la domination politique de l'Amérique sur l'Europe. Le prétendu impératif moral qui a soi-disant déclenché ce refroidissement est l'opération spéciale de la Russie en Ukraine en février 2022. Réponse inévitable de la Russie au coup d'État américain en février 2014 et à l'insistance insultante de l'OTAN. Ce nouveau régime ukrainien, créé par les États-Unis et haïssant la Russie, s'octroyant le droit souverain de placer Moscou à portée de missiles nucléaires. Ce sont là les prétendues raisons morales et impératifs de l'Union européenne pour refuser à la Russie le statut de fournisseur d'énergie de l'Europe. Mais en coupant les robinets d'énergie de la Russie en Europe, l'Union européenne elle-même pourrait être détruite économiquement, culturellement, industriellement, simplement pour qu'elle reste une nation vassale de l'Amérique, au lieu de devenir ce qu'elle aurait toujours dû être et aurait naturellement été, la gloire rayonnante du plus grand continent du monde, l'Eurasie, une Europe qui inclut la Russie, au lieu de la mettre en danger. La gloire de l'Europe est finie. La seule vraie question maintenant est de savoir quand. Pourquoi les dirigeants européens ont-ils fait cela? Cette question signe l'arrêt de mort de l'Union européenne.